France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle est déjà en train de discuter. S'il doit y avoir une patronne de la littérature jeunesse, c'est elle. Avec 160 livres au compteur, 50 ans de carrière, elle est incontournable. Elle a fêté ses 80 ans cette année, américaine de naissance. Elle en pleure, française d'adoption. Elle sait parler aux enfants de tout âge, aux ados aussi, sans tabou, mais toujours avec humour. Cet humour qu'elle a mis au service d'un roman pour adultes, cette fois. Suzy Morgenstern est dans les midis aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture. Alors, la liste de vos actualités en ce printemps 2025 est longue comme le bras. La fleur du passage clouté, c'est à l'école des loisirs. Monstre cherche monstresse, c'est aux arènes. Deux nouveaux tomes de la série La famille trop de filles chez Nathan Jeunesse. Suzy à l'école de la nature chez Grund. Et puis, un roman adulte, Sadie à Bride-les-Bains. Votre tout premier roman de pure fiction, on va dire, pour un public adulte, qui est apparu chez Erol. Et ça, c'est dans les 6 derniers mois. C'est rien que pour les 6 derniers mois. Comment faites-vous, Suzy Morgenstern? Est-ce que vous avez un prête-plume, un ghostwriter, que vous sadiseriez comme ça toute la journée pour qu'il travaille pour vous?
J'ai quand même une petite fille qui vit avec moi et qui fait la cuisine.
Ah, c'est pas mal.
Mais je travaille, j'écris, je me lève le matin, j'écris. Et en me gronde, les libraires me disent « arrête ».
Il y en a trop.
Il y en a trop, on n'a plus de place. Mais est-ce qu'on peut trop écrire?
C'est la question.
Oui, c'est la question que je me pose. Donc, être à Paris, là, ça me freine un peu.
Ah oui, là, vous écrivez pas en ce moment, vous n'avez pas le temps.
Voilà.
Sinon, vraiment, une journée comme ça, classique chez vous, c'est le matin, paf, à la table du
6h30.
6h30 du matin, vous commencez à travailler toute la journée.
Je suis, comment dire, je suis obsédée.
Oui.
Et puis aussi, 80 ans, combien de temps ai-je? Il faut que j'évacue tout.
Oui, il y a cette idée qu'il y a une urgence.
Avant d'évacuer cette terre.
Qu'est-ce que ça vous procure? Alors, j'ai lu quelque part que vous disiez que l'écriture, ça commence pas par le cerveau, ça commence par la main. Vous disiez que c'était quelque chose de physique au départ, l'écriture, chez vous. Qu'est-ce que ça procure quand vous écrivez? Vraiment au moment où vous êtes en train d'écrire?
Un pouvoir magique. Ouais. Je suis sûre d'avoir un pouvoir magique. En anglais, le mot c'est empowered. I'm empowered. Comme l'autre soir, j'ai lu au Barreau, au Festival des livres Écoute et Goûte, j'ai lu mon texte « Je suis une femme fatale ». Et il y avait peut-être 500 personnes et je me sentais un pouvoir, un grand pouvoir de captiver, de... Oui, et la même chose quand je me mets, j'ai hâte que ce soit le matin pour me mettre au travail. La nuit, je ne travaille pas, à part peut-être dans les rêves, mais la nuit, avant de me coucher, je pense, un, au petit déjeuner, et deux, à travailler, et qu'est-ce que je vais faire demain?
D'abord, il y a le petit déjeuner quand même, je note.
Ah, le petit déjeuner, très important. Sans petit déjeuner, pas de page.
Et vous faites un petit déjeuner à l'américaine ou à la française?
Très simple. Ça dépend des périodes. Si c'est un buffet à l'hôtel et que je n'ai qu'un seul estomac, c'est plutôt riche mais modeste. À la maison, je pourrais être en période de régime, comme c'est dit, mais d'habitude, c'est beaucoup, beaucoup plus austère à la maison.
Alors, c'est dit, on va en parler, hein, c'est l'héroïne de votre nouveau roman pour adultes, on va y venir un peu plus tard. En fait, dans ce que vous me racontez, Suzy Morgenstern, vous ne connaissez pas l'angoisse de la page blanche, la fameuse angoisse de la page blanche dont parlent beaucoup les écrivains.
J'ai un peu l'angoisse de la fin. Est-ce que je vais arriver à la fin? Par exemple, j'ai écrit un livre qui sort en septembre qui s'appelle Cœur de cochon. Mm-hmm. Un livre délirant. C'est ma vie avec un cochon. Et je pensais, est-ce que je vais finir? Est-ce que je vais aller au bout? Et ça aussi, j'ai écrit un autre livre qui sort, c'est Addiction anonyme à l'école des loisirs. Mm-hmm. Et là aussi, je l'ai écrit avec un autre écrivain, Denis Baronnet. Et oui, je me demandais, oui, c'est pas l'angoisse de la page blanche, c'est l'angoisse d'arriver à la fin.
Et alors, est-ce que justement la fin sur des livres qui sont un peu longs, on va dire, vous l'avez déjà en tête avant de l'écrire? Enfin, vous avez un plan parfait avant de vous mettre à écrire?
L'anarchie dans ma tête totale. Je sais pas du tout comment je vais finir un livre. Je savais pour Cœur de cochon comment ça allait finir parce que moi j'ai un cœur de cochon.
C'est-à-dire?
J'ai une greffe.
C'est vrai?
Et je savais que ça allait finir par ça.
Ah, d'accord. Hein? Ah oui, vous en avez traversé quand même des épreuves, Suzy Morgenstern. Vous avez eu un cancer des ovaires, c'est ça aussi également?
Ouais.
Vous en avez parlé.
Stade 4.
Stade 4. Hein? Oui, je ne savais pas qu'il y avait eu une greffe.
Prothèse de genou, bientôt prothèse de l'autre, neuropathie. Enfin, c'est tout, je pourrais parler pendant 2 jours. Mais ça me gêne pas.
Ouais.
C'est d'abord on est en France. J'aurais été en Amérique, j'aurais été morte. Mm-hmm. Et j'ai énormément de gratitude pour la France. Et même s'il y a des problèmes à l'hôpital, même s'il y a des problèmes dans la culture, c'est quand même un pays extraordinaire. Mm-hmm. On est soigné et c'est la Mecque de la culture.
Mm-hmm. On va y revenir à ça aussi, à votre amour pour la culture en général. Moi, j'ai l'impression aussi que ce qui ressort beaucoup de tout votre travail, c'est la joie.
Oui, j'ai vraiment une joie de vivre et chaque moment et d'être consciente de son bonheur et d'être consciente de la gratitude qu'on a pour cette vie-là, ces festivals de livres où on est accueilli, où les gens achètent nos livres. Chaque fois que quelqu'un me demande une dédicace, je dis, mais c'est trop de chance. C'est des gens, on écrit des livres et puis ils sont publiés et puis on les achète. Et même dans les endroits comme Villeurbanne, une ville à forte immigration, population immigrée, il vient massivement acheter des livres. Mais chez moi, aux États-Unis, j'achetais des livres en cachette parce que c'était une pure perte d'argent.
Ah oui, ça coûtait trop cher pour le foyer et la famille où vous étiez.
Ouais. C'est important d'être heureux. Parce que quand on est heureux, on ressent un truc très chouette. On sait qu'on est tranquille. Moi, par exemple, quand je suis heureuse, je sautille. Je ressens que, en fait, mon cœur est plein à ras-bord de diamants et de pierres précieuses. Quand je suis heureuse. Et dedans, j'y porte 3 lingots d'or très lourds, c'est pour ça que je dois sautiller. Ils sont venus du ciel pour moi. Et quand on voit des trucs jolis, je ressens la beauté des choses. Et quand je suis heureuse, tout me semble facile.
On vient d'entendre Viviane, elle avait 6 ans à l'époque, c'était dans Les Pieds sur Terre en 2022. Je suis presque sûre qu'on a dû lui en lire beaucoup des livres à cette petite Viviane. Suzy Morgenstern, est-ce que c'est pour apporter ce type de bonheur aux enfants que vous écrivez pour eux?
C'est un plus si ça porte bonheur, mais je crois que j'écris pour moi.
Ouais.
Et c'est mon bonheur.
Ouais.
Et je suis très bien heureuse. Je pensais que cette Viviane était moi petite.
C'est vrai, vous aviez ce sentiment-là de sentir le bonheur et de le matérialiser comme ça?
Ah oui, le bonheur de lire surtout. Je lisais en cachette. Et cette clandestinité était un bonheur formidable.
D'ailleurs, j'imagine que pour écrire et être lu, enfin, par des enfants ou des jeunes adultes ou des adolescents, il faut bien sûr avoir souvenir de l'enfant qu'on était. Visiblement, vous en êtes encore très proche de cet enfant.
Je suis toujours cet enfant. Mes enfants me reprochent d'être un enfant. Je n'ai jamais vraiment franchi l'adultitude.
Et ça se manifeste comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous reprocher, vos enfants?
Ben, ils s'occupent de moi. Emma, ma petite fille, elle fait tout ma gestion. Ursaf, un pot.
C'est parce que vous n'avez pas envie de le faire, ça.
C'est parce que je suis incapable.
C'est vrai.
Je n'ai pas franchi cette frontière d'adulte.
Uh-huh.
C'était mon mari, et puis maintenant, c'est ma petite fille.
Et ça faisait. Qu'est-ce que ça faisait de vous en tant que maman d'être aussi cet enfant dont vous parlez?
Mes enfants me voyaient comme quelqu'un de très paumé.
Ah oui.
Ouais, elle revenait à se plaindre des devoirs. Je dis, ben, ne les fais pas. J'étais inconsciente. J'étais paumée dans le système scolaire français, paumée en France.
Et oui, vous êtes arrivée, vous aviez 22 ans en France.
Ouais. Et bon, maintenant, ça fait 59 ans que je suis en France et je dis bonjour et les gens me disent « Passez de bonnes vacances, madame. » On ne peut pas s'intégrer avec cet accent.
Vous pensez que vous n'êtes pas intégrée?
J'étais pas intégrée dans les parents d'élèves, à l'école. Ouais, pas tout à fait intégrée. En Amérique, on peut être complètement américain avec un accent, enfin jusqu'à nouvel ordre.
Oui.
Mais ma grand-mère a passé 70 ans en Amérique. Elle était venue à 14 ans de Russie et elle parlait comme le jour où elle est arrivée. Et nous, on se moquait d'elle. Et maintenant, mes petits-enfants se moquent de moi. Ils essayent de me faire dire 3.
Vous y arrivez très bien.
8.
Ah, là, c'est plus dur.
8.
8. Vous disiez que vous étiez la petite dernière dans la famille, c'est ça? Vous étiez la dernière des filles.
Personne dans ma famille n'était petite. Mais j'étais la petite.
Ah ouais. Et qu'est-ce que ça a fait de comment, quel enfant étiez-vous? Alors, vous disiez que vous lisiez en cachette. Vous étiez l'intellectuel de service.
Oui, j'étais l'intellectuel. Je faisais les devoirs de mes sœurs aînées contre des menus services, comme aller manger un hamburger et un hot dog. Mes sœurs étaient très, très belle. Et moi, j'étais le petit laideron. Et la seule façon pour moi de briller, c'était à l'école. Donc, je me suis poussée à être studieuse.
Vous lisiez de la littérature jeunesse, enfant?
Ah oui, je mon ambition était de lire tous les livres de la bibliothèque de ma ville. Mais je suis arrivée à la lettre C seulement.
C'est pas mal quand même. À mon avis, ça doit en faire un petit paquet. Votre famille était comment? Vous étiez 3 filles, hein, c'est ça? Quelle ambiance il y avait?
Folle. Très musicale. J'ai écrit un livre sur la comédie musicale. C'était notre philosophie de la vie, tu vois. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash. On connaît les premières lignes de chaque chanson jamais écrite. On chantait beaucoup, ma mère jouait du piano, on dansait à travers le salon. C'était un peu le... Je me suis beaucoup identifiée avec le film de Frank Capra, You Can't Take It With You, cette famille folle qui danse, qui chacun fait quelque chose. Mmh.
Et alors comment on s'adresse même si vous dites que vous écrivez pour vous, bien sûr, mais comment on arrive à parler à tout le monde en ayant une famille si particulière?
Mais je crois que ça aide, au contraire, oui. J'encourage beaucoup la folie, mais j'aime cette folie.
Ouais. Vous avez donc 50 ans de carrière, presque. Donc, vous avez vu évoluer les enfants, les jeunes d'aujourd'hui sont pas les mêmes que ceux quand vous avez débuté. Je disais que probablement vos premiers lecteurs, ils ont mon âge aujourd'hui, je pense, à peu près, la cinquantaine. Est-ce que vous avez vu changer les enfants? Est-ce que, par exemple, leurs compétences en termes de lecture ou d'intérêt ont changé? Voilà. Est-ce que vous avez pu observer ça? Vous êtes à un poste d'observation unique, en fait.
Oui. Je suis invitée dans les classes partout dans le monde et là, ils sont obligés de lire mes livres pour me recevoir. Donc, c'est une sélection. Mais on se bat contre... comment ça a changé? C'est les écrans, les téléphones. Et on se bat pour garder le lecteur avec nous. J'écris un livre avec mon petit-fils Sacha qui a 14 ans, ça s'appelle La retraite à 13 ans. Et il peut, c'est un genre de Proust junior où il peut écrire 25 pages sur une bouteille de vin. Et je dis, mais Sacha, on va perdre notre lecteur, il faut que l'histoire avance. Et puis je relis et je peux rien enlever parce que c'est tellement bien écrit.
J'ai adoré parce que vous avez inventé un mot, puisque vous parliez de votre petit-fils, le mot « grand-merdé ».
J'ai inventé.
Oui, vous l'avez inventé.
Dans le livre « Mes seins tombent ».
Oui.
Oui, malheureusement, on ne peut pas le faire avec grand-père. Je cherche quelque chose pour les grands-pères. Grand-merdé, j'étais très fière.
Mais c'est génial ce mot-là. Alors, ça veut dire quoi exactement si... qu'est-ce que ça veut dire, grand-merdé?
Ça veut dire prendre ses petits-enfants des journées entières. En mon cas, c'est 3 ans. c'est grandement mère.
On voit. Suzy Morgenstern, vous avez publié aussi un roman, on l'a dit tout à l'heure, pour les grands, pour les adultes. Sadie abride les bains. Vous aviez déjà écrit sur vous, sur votre vie, mais là, c'est vraiment une plongée dans le grand bain de la fiction. C'est très, très drôle. On va y venir. Mais pourquoi ce roman-là, maintenant, précisément?
C'est une bonne question. J'avais subitement... étant peut-être au-delà du sexe à 80 ans, peut-être j'avais envie d'en parler.
Ah oui, parce qu'il y a
un dicton, ceux qui en parlent le plus en font le moins.
Oui, c'est ça, ceux qui en parlent le moins qui en font le plus, ça marche dans l'autre sens.
Ouais.
C'était pour parler de sexe alors?
Ah oui, sinon c'est pratiquement un livre pour enfants, mais avec sexe.
Justement, on va continuer à discuter, mais je vais vous faire écouter un extrait d'un spectacle, peut-être que vous connaissez, de Mohamed El-Khatib, qui a été présenté à Avignon l'été dernier, qui a eu un énorme succès, et qui est rejoué, je le précise, ce soir d'ailleurs, au Grand Palais à Paris. Ça s'appelle « La vie secrète des vieux ».
Alors, si je devais résumer l'intrigue, je vous dirais c'est assez simple. J'ai 91 ans, et je n'ai pas peur de le dire. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant dans la salle. Hein. J'ai envie de faire l'amour tous les jours.
Ma fille m'a demandé un jour, « Maman, est-ce que tu niques encore ?» Ça m'a beaucoup fait rire. « Maman, Est-ce que tu niques encore? En réalité, j'étais très heureuse que ma fille ait réussi à me poser cette question. Parce que moi, j'aurais jamais osé demander ça à ma mère. Mais je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit que non, qu'il ne se passait plus rien. Mais là, quand elle va voir le spectacle, elle va découvrir que sa mère nique encore. En plus, avec un Mexicain très très caliente.
Alors, on vient d'entendre un extrait de La vie secrète des vieux de Mohamed El-Khatib où des vieilles, là, pour le coup, qui ne sont pas comédiennes, montent sur scène pour parler de leur désir. Et donc, vous avez eu envie d'écrire sur le désir, sur le sexe, parce que vous n'aviez pas pu jusqu'ici, c'est ça?
Je sais pas, les choses se précipitent. Je sais que je peux plus dire que je vais écrire ça à ma retraite.
Mm-hmm. Ah oui.
Il faut y aller. Nike a volé mon slogan. Just do it.
Et pourquoi il faut y aller? Pourquoi c'est important pour vous?
Parce qu'on est vivant. Mmh. Et il faut déployer tout notre potentiel pendant qu'on est vivant et donner tout ce qu'on a. Et c'est ce que j'essaie de faire dans la vie.
Et le sexe, c'est la vie.
Et je suis sûre que ça me tient vivant, tout ça.
Mais parler de sexualité, c'est parler d'un grand pan de la vie dont on parle peu, c'est ça?
Oui, j'adore parler de sexe avec les enfants parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les grandes questions à poser avant la sixième ». Il y a une des nouvelles qui s'appelle « Pourquoi je rougis quand on dit le mot sexe ?» Et les enfants rougissent, ils ont beaucoup de mal à en parler. Et je dis « Mais le sexe n'est pas un gros mot. Le sexe est le plus beau cadeau. S'il y a un Dieu, le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme et la femme. » Et je veux qu'ils aient l'idée que c'est quelque chose de positif, de plaisir, de merveilleux.
Vous en avez déjà parlé dans votre livre que vous aviez écrit à quatre mains, c'était Fleurs tardives, où vous parlez de la redécouverte de la sexualité un peu sur le tard. Et c'est vrai qu'on l'entend dans la pièce La vie secrète des vieux. On est dans une société où on n'a pas tellement envie d'imaginer. La sexualité des vieux, en fait, c'est difficile.
Oui, si vous saviez combien de personnes m'ont écrit en disant que je les ai aidés à aller comme moi sur Internet pour trouver une victime.
Ça a été difficile, comment ça s'est passé? Racontez-nous, parce qu'il y a quand même une scène géniale dans ce livre où vous racontez comment vous vous êtes dit « Allez, on y va, on va au lit », quoi.
J'ai dit, on n'a pas le temps de faire la cour. Et alors, bon, moi j'étais veuve, oui. Veuve et grand-mère la même année, à 49 ans. J'ai pleuré 10 ans, imméritait mes larmes. Et un de mes gendres m'a dit, tu es encore potable. Ça c'était il y a 20 ans. Et il m'a mis sur un site web de rencontre et j'ai rencontré Georges, un petit Suisse. Et je lui ai dit à un moment donné, j'ai 2 jours à Paris sans engagement. Et il m'a dit, j'arrive par le prochain train de Neuchâtel en Suisse. Et il est venu et je l'ai poussé au lit. Et ça fait 20 ans.
Et vous êtes toujours ensemble?
Oui.
Oh, c'est super. Dans l'histoire, on n'a pas trop parlé de l'histoire de Sadie quand même à Bride-les-Bains. Alors quand même, Bride-les-Bains, c'est quand même assez marrant d'avoir situé cet endroit, ce roman dans cet endroit. Vous le connaissez. Donc Sadie, dans l'histoire, elle vous ressemble un peu puisqu'elle est américaine du New Jersey même. Voilà. Et sur un coup de tête, pof, elle décide de partir en France pour faire une thalasso dans une petite station thermale de 600 habitants en Savoie. Son but, c'est de maigrir. Et c'est vrai que c'est quand même une drôle d'idée parce que comme vous l'écrivez, Suzy Morgenstern, tout le monde va en France pour se gaver de 365 fromages locaux et pour boire du rouge, du rosé et du blanc. Vous vous êtes bien amusé quand même à balancer votre américaine dans ce monde franchouillard. Voilà, c'était drôle ça quand même, vous vous êtes fait plaisir.
Oui, c'était très drôle de l'écrire. Je riais en l'écrivant. Et ça c'est bon pas. Signe parce que si je ris, les lecteurs vont rire. J'ai de bons retours jusque-là. Et je suis contente de l'offrir au monde. Maintenant, j'espère que quelqu'un à Bride-les-Bains va le lire, genre le maire ou le service culturel de Bride-les-Bains et qui m'invite faire une cure.
Ah bah je pense qu'ils vont le faire. On peut passer un petit appel, mais je pense que je pense qu'ils vont le faire. Bride-les-Bains, vous connaissiez, vous y étiez allé déjà.
Je suis allée il y a 35 ans ou 40 ans. Ouais. Le problème a toujours été et le problème reste. Bride-les-Bains ou pas. Mais j'ai perdu 7 kilos à Bride-les-Bains que j'ai repris allègrement très rapidement.
Et de la même façon que dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de la vie secrète des vieux, les vieux s'appellent vieux. Ils disent, on ne dit pas personnes âgées, on ne dit pas troisième âge, on ne dit pas senior, on dit vieux. Et vous, dans votre roman, vous dites gros et vous dites grosse. Vous ne tournez pas autour du pot, si j'ose dire.
Oui, on vient d'essayer de me faire enlever le mot gros et grosse d'un livre. Il faut appeler un chat un chat, non? J'aime beaucoup le mot vieux. Je déteste le mot senior et personne âgée. Vieux, c'est vieux. Et depuis minuit de mon anniversaire de 80 ans, j'ai traversé une frontière et maintenant tout les jours, je me dis, t'es vieille, t'es vieille, t'es vieille. C'est comme un déclic négatif dans ma tête.
Ah ça, oui, ça produit un effet négatif.
Oui, c'est un chiffre fatidique. Mmh.
Vous êtes en train d'écrire quelque chose en ce moment, j'imagine. Pas là tout de suite, mais...
Bien sûr, toujours. J'aimerais écrire quelque chose pour se battre, pour la lecture des enfants, contre les écrans. Je l'ai présenté à une éditrice hier, elle m'a dit, mais c'est perdu d'avance. C'est une sacrée, sacrée bataille qu'on a là. Et on ne sait pas les effets que ça va produire sur les générations futures. Mon petit-fils Sacha est le seul élève de son collège qui n'a pas de téléphone. Mm-hmm. Bien sûr, il n'est pas content, mais il lit. C'est un lecteur, c'est un écrivain. Je ne sais pas si c'est le manque de téléphone qui fait ça, mais oui, j'aimerais écrire quelque chose à la gloire de la lecture. Je serai pas la première, mais seulement si je pourrais faire une véritable contribution ludique et géniale à la chose.
Merci beaucoup. Je voudrais juste, Suzy Morgenstern, terminer l'émission en vous posant une question qui copie un titre de vos livres. Comment ça va?
Ça va mal parce que l'émission finit et j'aimerais rester avec vous pendant 150 ans.
Très bonne réponse, Suzy Morgenstern. Toute votre actualité, c'est sur la page des Midi parce qu'il y en a tellement que je peux pas tous les citer dans cette émission. Nous, ça nous a donné envie d'écouter Féminin de Véronique Sanson.
Ça fait du bien de savoir.
Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Hundenstock, Boris Pinault, Oriane Delacroix, Aïssa Toundoy, Louis Cosnard, Zora Vignier. Elle est réalisée par Louise André avec Ludovic Auger à la technique.